Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. L'offensive de Moscou contre l'Ukraine lancée en février 2022 a surpris bon nombre d'observateurs et donné le coup d'envoi du conflit le plus important sur le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le monde aujourd'hui, les luttes se multiplient, les conflits se propagent, le chaos s'impose, galopant. Les régimes autoritaires sont en plein accroissement, bousculant l'ordre planétaire. Ils sont alliés dans leur volonté de disloquer la map monde. Russie, Turquie, Iran, Chine et Inde se projettent dans un avenir de conquête. Les anciens empires du 19e siècle, tsaristes, ottomans, perses, kings, mongols, semblaient à jamais disparus. En réalité, ils n'avaient fait qu'hiberner. Ils sont réapparus radicalement transformés, écrit dans son dernier ouvrage Jean-François Colosimo, qui est notre invité. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, documentariste et éditeur. Vous publiez Occident, ennemi mondial numéro 1, avec cette question: Russie, Turquie, Iran, Inde, Chine, pourquoi tant de haine, aux éditions Albin Michel. Vous proposez un essai passionnant, récit d'une résurgence des empires et émergence d'un nouvel ordre mondial. Jean-François Colosimo, les empires, vous le dites, sont de retour, ils ont soif de conquête. Est-ce qu'on peut parler de revanche et qu'ont-ils à proposer au monde?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, oui, ils sont de retour au sens où ils ont tous des prétentions. Ces anciens empires qui avaient, oui, disparu, qui sont réapparus, ils ont tous des prétentions impériales, c'est-à-dire expansionnistes. Dans le cas de la Russie, c'est clair avec l'Ukraine. Regardez la Chine avec Taïwan, n'est-ce pas? Mais regardez aussi comment l'Iran étend en quelque sorte sa toile d'araignée sur tout le Moyen-Orient, à travers les Houthis, à travers le Hezbollah, à travers le Hamas, etc. Et d'autres milices en plus, n'est-ce pas ? Évidemment, l'Inde veut le Cachemire, contre la Chine d'ailleurs, enfin, etc. Donc on voit que ces empires sont de retour, mais ils sont de retour aussi d'une manière assez claire, de manière conjointe, ils nous dénoncent, nous. Alors nous, l'Occident.
Oui. L'Occident, c'est quoi l'Occident, Jean-François
Colosimo ? Pour eux, c'est cette espèce d'hydre qui est hypocrite, menteuse, corruptrice, corrompue, décadente, en déclin, qui a occupé l'hégémonie mondiale, en fait, en pratiquant une espèce de fausse morale qui s'appellerait les droits de l'homme, qui serait en fait le masque de sa volonté de puissance à cet Occident, et il faut donc s'en débarrasser, et d'ailleurs ils n'hésitent pas à présenter leur combat comme une espèce de combat planétaire. On parle de Sud collectif, dont ils seraient en quelque sorte les leaders, c'est évidemment une invention, puisque ce Sud est lui-même traversé de différences, de contradictions, où désormais la Russie parle de majorité mondiale, évidemment, parce que malgré tout, ces empires sont unis contre nous, mais ils ont une longue histoire d'opposition entre eux, de guerre entre eux, de rivalité entre eux. Par exemple, lorsque la Russie professe qu'elle voudrait être le leader de la majorité mondiale, c'est plus aisé pour elle, évidemment, que se prétendre le leader du Sud. Parce que dans le cas du leader du Sud, la Chine ou l'Inde sont quand même en meilleure position, ne serait-ce même que géographique. Donc c'est une forme de conjonction, en fait, d'intérêts, de gens qui disent « Vous nous avez éprouvés à travers l'histoire, vous nous avez humiliés ». Vous avez pratiqué en fait la force, la cruauté, eh bien c'est à notre tour. Et nous sommes très libres par rapport à vos pseudo-leçons de morale. Mmh. C'est ça qui se passe.
Alors, il y a un certain paradoxe, hein, finalement, dans le fonctionnement de ces empires. Ils ont connu, vous le dites, l'occidentalisation durant les 19e et 20e siècles. Occidentalisation qui était un symbole de modernité dont ils ont bénéficié, qu'ils ont réclamé aussi.
Et, bien sûr.
Et où s'est fait la rupture, Jean-François Colosimo?
Oui, en fait, c'est un peu même une histoire sur 5 siècles, parce que tous ces empires que vous évoquiez, tsaristes, mogols, ottomans,
kings
et perses, c'est-à-dire safavides à l'époque, ce sont des empires qui naissent véritablement au 15e siècle, vous voyez, en tout cas dans la forme qu'on
leur connaît. Après 1492, à découverte de l'Amérique.
Et voilà. Et là, donc, l'Europe s'impose, je dirais, elle sort de son petit monde, l'Europe, parce que l'Europe, c'est jamais que le Finistère de l'Eurasie, n'est-ce pas ? C'est un peu cette pointe avancée du grand continent eurasiatique. Elle sort dans l'Atlantique, elle s'impose au monde, et d'un coup, dans ces empires, à Pékin, à Moscou, à Téhéran, etc., bientôt à Istanbul, enfin qui sera Constantinople, etc., on est saisi par la puissance. C'est la puissance de la rationalité, c'est la puissance de la technique, donc ça donne l'administration, l'armement, mais c'est aussi la rationalité historique qui fait qu'on va se mettre à écrire l'histoire des autres à leur place. Donc il y a la canonnière, mais il y a aussi la plume, en quelque sorte. Et donc, dans ces empires, on se dit, il faut s'européaniser. Et on essaie. Simplement, évidemment, on va créer une administration, une armée sur le modèle de l'Europe, etc. Il n'y a qu'une chose qu'on ne va pas vouloir, c'est mettre en cause l'autocratie. L'européanisation au XIXe siècle, c'est une manière de sauvetage de l'autocratie. Et là, donc, il y a un échec, il y a des réactions monstrueuses à la fin du Xe siècle, avec véritablement des empires qui sont de plus en plus, je dirais, tyranniques. Ça explose avec 14-18, et là, vous avez une mutation totale. Il faut bien comprendre, il y a deux empires qui disparaissent. L'Empire ottoman, qui devient la Turquie de Mustafa Kemal. L'Empire perse, qui devient l'Iran de Pahlavi. Et là, en fait, on adopte de l'Occident la révolution nationale. Et ça va être vrai pour l'Inde de Nehru au moment de l'indépendance. Et puis, d'un côté, il y a l'autre versant occidental, c'est le communisme. Et donc, l'Empire tsariste, l'Empire russe disparaît, donne lieu à l'URSS. Et l'Empire Qing disparaît, va donner lentement lieu à la Chine, République de Chine populaire. Et en fait, vous voyez, avec Lénine, Staline à Moscou, avec Mao à Pékin, avec Kemal à Ankara, avec Pahlavi à Téhéran, et avec Nehru à New Delhi, en fait, c'est l'Occident qui triomphe. C'est-à-dire l'image qui se fonde de l'Occident, c'est-à-dire la démiurgie technique, la transformation de la nature, le déplacement des populations, l'exode rural, on transforme les paysans en ouvriers, on change le cours des fleuves, on veut l'industrie, on veut l'électricité. Vous vous souvenez du mot de Lénine, la révolution, c'est les bolcheviks plus l'électricité. On veut le feu sacré. On pense que le feu sacré de l'Occident, c'est cette puissance technique. On ne comprend pas que la vraie force de l'Europe, c'est le retour critique sur soi. L'Europe qui a effectivement été ce lieu du colonialisme, ou en tout cas le colonialisme moderne, parce que le colonialisme a existé partout à travers l'histoire, mais c'est aussi le lieu où on va penser l'anticolonialisme, n'est-ce pas ? Donc l'Europe, en fait, elle est en quelque sorte sa meilleure critique. Et ces nouvelles réalités vont refuser l'autocritique. Mais dans les années 80, tous ces souffles, tous ces systèmes nationalistes ou communistes arrivent au bout du rouleau. Ça n'a pas marché. Et c'est là où vont petit à petit entrer en gestation les néo-empires religieux que nous connaissons aujourd'hui.
Donc est-ce qu'on peut parler d'échec alors ? Vous dites que ça n'a pas marché, donc l'occidentalisation n'a pas marché. Et à quoi leur sert à ces néo-empires que vous évoquez ? L'autocratie, Jean-François Colessimo.
Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est dans cette occidentalisation 20e siècle, qui n'est pas l'européanisation 19e siècle, parce que dans cette occidentalisation à marche forcée, hallucinée en quelque sorte, mais en fait, il faut véritablement supprimer quoi ? Les cultures traditionnelles, les classes traditionnelles, les corporations traditionnelles, parce que tout ça, c'est un obstacle au progrès, parce qu'on est dans la religion absolutisée du progrès, n'est-ce pas ? Et alors, évidemment, l'acmé de ce mouvement, par exemple, c'est la révolution culturelle en Chine, où on supprime tout le passé, l'an zéro. Alors cet an zéro, parfois, c'est un grand retour en arrière, comme lorsque le Shah Pahlavi, en Iran, veut supprimer 15 siècles d'islam et les remplacer par le retour à Darius et à Cyrus. Vous vous souvenez peut-être de ces fêtes de Persépolis qui avaient un côté kitsch hollywoodien, un côté carton-pâte incroyable de reconstruction, là aussi halluciné du passé. Donc on a dessaisi les gens de leur identité, et dans l'identité, la religion, ça compte partout, n'est-ce pas ? Même si parfois c'est une religion passive, mais elle imprègne la mentalité, n'est-ce pas ? Derrière chaque culture, il y a un culte. Et donc les successeurs de ces gens qui ont échoué, ils ont échoué pourquoi ? Parce qu'ils ont dit « on va faire descendre le ciel sur terre ». Ils ont fabriqué des religions séculières. La momie de Lénine en est le meilleur exemple, n'est-ce pas ? Mais ils ont tous fabriqué des religions séculières du progrès, du bonheur matériel. Le bonheur n'est pas là, le progrès, en fait, provoque des torsions, des divisions, des écrasements. On veut supprimer les racines, on déracine pour fabriquer cet homme nouveau un peu partout. Donc c'est l'échec, Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des religions séculières, et la religion, c'est un peu comme la plomberie, il vaut mieux appeler des professionnels, vous voyez, si on veut que le travail soit bien fait. Et c'est exactement ce que se disent leurs successeurs. Mmh. Poutine, Erdogan, Modi, Khamenei, Khomeini Khamenei, et Xi Jinping, ils se disent, mais enfin, l'erreur de nos prédécesseurs, c'est pas le totalitarisme ou l'autoritarisme, on va continuer. C'est qu'en fait, ils se sont trompés. Ils sont trompés parce qu'à force de vouloir faire descendre le ciel sur terre, ils ont montré qu'en fait, ils en étaient incapables. Non, non, il faut renvoyer le ciel au ciel. On va reprendre dans le KGB, là, dans le musée, la vieille religion qu'on comptait détruire, et on va l'idéologiser comme un nouveau carburant pour la poursuite, en fait, de la tyrannie.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Jean-François Colosimo, de ce que vous évoquez là, sur le facteur religieux ?
Écoutez, cher ami, je vais vous en donner 5, rapides. Vladimir Poutine, il restaure les monastères orthodoxes que les tchéquistes, les ancêtres des KGBistes, dynamitaient. Et il s'est adjoint pour sa guerre d'Ukraine, le patriarche Kirill, qui professe une forme de croisade cinglée qui le place totalement même hors du christianisme.
Alors, le patriarche qui est justement un ancien KGBiste.
A collaboré avec le KGB, qui est un oligarque, qui fait quand même partie du système. C'est pas une victime du système, c'est un victimisateur, n'est-ce pas ? Et particulièrement des prêtres dissidents, etc. Voilà, Poutine restaure les monastères que le KGB dynamitait. Xi Jinping n'arrête pas de citer Confucius, parce que Marx, ça suffit plus. Et Confucius, c'est le confucianisme d'État en Chine, dont les gardes rouges, y compris son père, brûlaient les écrits. Erdogan restaure le culte musulman dans Sainte-Sophie, dont Atatürk avait fait un musée. Il en avait fait un musée parce qu'il voulait dire aux Grecs, avec qui il avait fait la guerre, que Sainte-Sophie ne serait plus jamais un lieu de culte orthodoxe. Et il voulait dire à toutes les fraternités soufis qui étaient contre lui, que ça ne serait plus jamais un lieu de culte musulman, n'est-ce pas ? Mais voilà, que le culte musulman est de retour. Bon, Modi, lui, il veut réhindouiser les Indiens comme les islamistes prétendent réislamiser les musulmans. C'est l'intutva, c'est l'hindouité, et c'est la chasse à tout ce qui n'est pas hindou. Et pour finir, évidemment, alors Khamenei, Khomeini, là on est dans la République islamique d'Iran, je pense qu'on peut se passer de démonstration. Sachant que le khoménisme est une trahison du chiisme qui induit une espèce de séparation entre les pouvoirs spirituels et temporels, alors que Khomeini, c'est vraiment une forme d'islamisme, fondamentalisme politico-religieux typique. Donc ils sont tous dans le politico-religieux. Pourquoi ? Parce que la religion, c'est formidable. C'est formidable comme carburant idéologique, n'est-ce pas ? La religion, ça inclut tout le monde. Si on impose le fait religieux sur une communauté humaine, tous les membres de cette communauté vont vivre au même rythme, selon les mêmes imaginaires, selon les mêmes rites. C'est exclusif. Si vous avez votre religion, elle exclut toutes les autres, puisque c'est la vérité. Mais c'est surtout une puissance de mobilisation parce qu'elle donne sens au sacrifice, n'est-ce pas ? Elle donne au sacrifice dans l'au-delà. Beaucoup mieux quand même de mourir en sachant que parce qu'on s'est battu pour la juste cause, on va aller au paradis auprès de Dieu, que de savoir qu'on va avoir son nom sur une stèle à la gloire de la Révolution. Or, qui dit en 2017, nos ennemis peuvent nous attaquer, nous les détruirons en nous sacrifiant dans le même temps ? N'est-ce pas ? Si ce n'est que eux, ils crèveront, ils iront en enfer, et nous, nous serons peut-être morts, mais nous irons au paradis. C'est Vladimir Poutine à Valdaï, qui lui sert de Davos, et vous voyez qu'il parle comme Oussama Ben Laden. Simplement, la différence entre Poutine et Oussama Ben Laden, c'est 6500 ogives nucléaires.
Alors, pour poursuivre avec la religion, après ça, évidemment, tout ce que vous me dites là suggère plein d'autres questions. Parlons du christianisme, peut-être. Vous dites que précisément, là où le christianisme est en régression, la démocratie est elle-même en régression, Jean-François Colosimo.
Oui, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir, baptiser les gens de force et les envoyer à l'église de force, c'est pas ça la question. La question, vous le savez, c'est que le christianisme a en lui-même, en quelque sorte, sa propre puissance de sécularisation, parce que le Christ dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, sous-entendu, il y a une disjonction complète entre Dieu et César. Et puis, il y a saint Paul qui vient derrière et qui dit « Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ni juif, ni grec, enfin, etc. Le christianisme postule une égalité ontologique des êtres humains. C'est ça le fondement, le fondement réel des droits de l'homme, c'est que vous me valez, et si vous me permettez, que je vous vaux. C'est-à-dire que nous sommes à égalité fondamentale de dignité, n'est-ce pas ? Et que les droits que nous avons, les droits fondamentaux que nous avons, le droit à la liberté, à la dignité, etc., ben, ce sont des droits inaliénables, dans le sens où c'est pas que vous les méritez, ou que vous pourriez les mériter plus que moi, ou moins que moi. Ils sont pas variables, ils sont intrinsèquement liés à la personne, à l'individu. Alors ça s'est développé, parce qu'en fait, dans la grande histoire de la colonisation par l'Europe à partir de 1492, il faut savoir quand même que cet âge de l'exploitation du monde, il y a eu exploitation, c'est évident et c'est terrible, mais c'est aussi un âge de l'exploration du monde, et contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'il y a une espèce de vulgate là-dessus qui est un peu idiote, le colonisateur et le missionnaire sont très souvent en fait en bagarre. Ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, n'est-ce pas ? Alors, ça a pu arriver qu'ils les aient, mais très rapidement, vous voyez, même en Amérique latine, les conquistadors, c'est l'Église qui dit stop, quoi. Tu vois, qui dit on ne peut pas forcer les gens à la conversion. Ce sont des êtres humains, ils ont une âme. Hein, c'est une fameuse controverse. Mais la controverse, elle est très vite réglée. Alors après, je ne dis pas que les Églises soient toujours comportées de manière merveilleuse, loin s'en faut. Mais les principes sont là. Et ces principes font qu'aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qui nous arrive à nous ? Nous sommes sensibles au combat des femmes iraniennes. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent devenir occidentales ? Parce qu'elles veulent devenir européennes ? Parce qu'elles veulent dire françaises ? Non. D'ailleurs, on espère bien qu'elles vont rester iraniennes, parce que, je veux dire, les Iraniens, lorsqu'ils sont libres, ils ont une contribution culturelle énorme. Vous voyez le cinéma iranien, n'est-ce pas ? Enfin, je veux dire, il y a une capacité de créativité qui est énorme. Non, on veut qu'elle reste iranienne. Et non, ce qu'elle veut, c'est la liberté, la dignité, le respect, l'autonomie. Elles ne veulent pas devenir des californiennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là-dessus, soyons attentifs à ça. Plutôt que de parler de désoccidentalisation du monde, moi, je préfère parler, parce que l'Occident, on ne sait pas trop ce que c'est, de démondialisation du monde. Et en fait, il faut véritablement que ce mouvement... Alors, il y a les femmes en Iran, il y a les Ouïghours en Chine, qui sont en train d'endurer un quasi-génocide. Il y a les intouchables en Inde, dont, en dépit des grandeurs de l'Inde et de l'hindouisme, le sort n'a pas varié encore. Il y a les Ukrainiens, les Ukrainiennes sous les bombes. Il y a les dissidents en Russie. Et aujourd'hui, il y a les manipulations aussi de l'Iran à travers tout le Moyen-Orient. L'Iran a transformé le Moyen-Orient en une espèce de terrain d'échiquier où, en fait, règnent les milices et les missiles, n'est-ce pas ? C'est là où on en est. Donc, à travers tout ça, ce qu'on voit, c'est que nous avons, en quelque sorte, de véritables alliés, non pas comme une puissance hégémonique, mais comme des gens qui aspirent à vivre avec nous l'universalité, mais l'universalité dans les différences culturelles aussi. L'universalité, c'est pas la mondialisation, n'est-ce pas ? C'est pas que tout le monde devienne un consommateur de McDonald's assis devant sa chaîne Netflix, avec un casque sur les oreilles, en train d'écouter je ne sais trop quelle musique internationalisée. Ça n'est pas ça, l'universalité. L'universalité, c'est reconnaître l'autre aussi dans son altérité. Et là-dessus, je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre l'Europe et les États-Unis.
Alors, lesquels ? Je ne sais pas si... Alors, il nous reste une minute avant de terminer cette première partie d'émission, Jean-François Colissimo.
En une minute, les États-Unis, lorsqu'on regarde bien, ont la même constitution politico-religieuse que ces empires qui menacent, en fait, l'équilibre du monde. Et les États-Unis, de ce point de vue-là, ne sont pas l'Europe. Et l'Europe, ça n'est pas les États-Unis.
Alors, le côté messianique, finalement, des États-Unis.
Oui, il y a une religion civile. Il y a le mythe de la domination innocente qu'ils ont depuis la découverte du Nouveau Monde, croyant qu'ils ont trouvé une terre vierge. Non, il y avait les Indiens. Non, l'esclavage, on passe dessus. Enfin, on passe surtout, domination innocente. Ils sont l'empire du bien, donc quand ils se rendent à l'extérieur et qu'on les reçoit mal, même quand ils en fait font pleuvoir ce qu'ils appellent sous George W. Bush des bombes humanitaires, quel oxymore, enfin, quelle bombe humanitaire, et qui reviennent chez eux, ils disent « Pourquoi on ne nous aime pas ?» Et c'est un truc sincère, ils ne comprennent pas, parce que nous savons, contrairement à eux, que tout être humain peut toujours être capable d'inhumanité. Eux, ils sont convaincus d'être l'humanité achevée.
Jean-François Colissimo, on vous retrouve après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Jean-François Colosimo est notre invité, essayiste, documentariste et éditeur. Il publie Occident, ennemi mondial numéro 1, Russie, Turquie, Iran, Inde, Chine, pourquoi tant de haine, aux éditions Albin Michel. Jean-François Colosimo, on a terminé la première partie de l'émission sur cette comparaison entre l'Europe et les États-Unis. Comment voyez-vous l'Amérique aujourd'hui et comment va-t-elle cette Amérique d'après vous, Jean-François Colosimo?
Alors, d'abord, il faut dire en deux secondes que l'Amérique repose vraiment sur sa religion civile. Aux États-Unis, les églises sont libres de l'État, mais l'État n'est pas libre de Dieu. La preuve, c'est que le nom de Dieu est sur le dollar. C'est le premier mot de l'hymne national. Président prête serment sur la Bible. Le Capitole ressemble à un temple. Il y a la vénération du drapeau. Il y a la vénération des cimetières militaires. Donc on a véritablement une religion civile comme dans l'Empire romain. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est une république impériale, en fait, les États-Unis. C'était le mot de Raymond Aron. Donc cette république impériale, elle est fondée sur le mythe que cette terre a été réservée par Dieu à ces puritains qui fuyaient l'Europe, qui fuyaient la papauté, les monarchies catholiques, mais aussi les monarchies protestantes, comme l'anglicanisme, n'est-ce pas? Ils ont quitté ce monde de Satan, c'est le monde de la grande prostituée de Babylone dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et ils ont trouvé ce monde réservé par Dieu, vierge, parce que c'était le nouveau départ absolu, le nouveau monde. Alors, il y a une destinée manifeste, providentielle des États-Unis, qui sont l'empire du bien, parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Alors, ce Dieu, c'est le Dieu de la religion civile. C'est un Dieu sorti de la Bible, mais qui est un Dieu un peu déiste, théiste. Il n'a pas de visage, enfin, c'est l'Amérique elle-même, en fait. Alors, ce mythe-là, qui combine la domination innocente, qui combine les punitions salvatrices, ça, c'est avec l'esclavage des futurs Afro-Américains, et qui combine l'élection divine, tout de même, avec une dimension messianique et millénariste. Hein, le millénarisme, c'est quand l'Amérique est isolationniste, c'est ce millénium, ce monde protégé qui est réglé par Dieu, et puis messianique, c'est quand elle intervient pour, entre guillemets, sauver le monde. Alors, par rapport à ça, ce qui est clair, c'est que ce mythe, il a d'abord été totalement ébréché le 11 septembre 2001, lorsque, en fait, Oussama Ben Laden, qui avait travaillé avec les Américains en Afghanistan...
Pour chasser les Soviétiques.
Alors, il a laissé tomber une foudre divine sur New York, en disant, est-ce que c'est vous qui avez gagné la guerre contre l'empire athée, l'empire non-croyant, l'empire impie soviétique? Est-ce que c'est vous avec vos fusées et vos dollars, ou est-ce que c'est moi avec mes djihadistes prêts à mourir? Et l'Amérique s'est lancée dans une guerre insensée. L'Afghanistan, c'est 20 ans de guerre, c'est 3 500 milliards de dollars pour zéro résultat. Alors ce mythe a été ébréché parce que l'Amérique a inventé une espèce de western planétaire, de track wanted à l'ennemi. Mais l'ennemi, il était insaisissable puisque le terrorisme actuel, c'est l'ubérisation du terrorisme, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé cette fausse guerre d'Irak. Et avec la guerre d'Irak, ils ont donné leur réquisitoire aux cinq méchants, là. Aux Russes, aux Chinois, aux Indiens, aux Iraniens et aux Turcs, pour dire, voyez bien que vous êtes des manipulateurs, puisque vous mentez. Parce qu'il y a eu un mensonge. Nous n'y sommes pas allés, je vous rappelle. Et nous avons eu raison de ne pas y aller. Donc l'Amérique, ébranlée par le 11 septembre, elle conclut 20 ans après à deux événements terribles aussi, la profanation du Capitole par les Trumpistes, profaner le temple de la Constitution. C'est une véritable profanation, enfin, c'est une profanation religieuse. Et puis la deuxième chose, c'est le départ bâclé d'Afghanistan par Biden. Et c'est ça qui explique la sortie du bois, en quelque sorte, l'affirmation de ces cinq empires. L'Amérique a dévissé. Alors, elle va mettre très longtemps à dévisser. C'est pas qu'elle va s'effondrer demain, mais on voit aujourd'hui qu'elle est quasiment au bord de la guerre civile, avec des Américains totalement divisés et antagoniques sur l'identité américaine. Et donc, on va rentrer dans une période d'isolation. Face à ça, l'Europe, c'est très simple. Aux États-Unis, il y a 95% des gens qui croient en Dieu, il y a 75% des gens qui invoquent Dieu chaque jour, et il y a 65% des gens qui se rendent à un culte hebdomadaire. Tu vas croiser les chiffres avec l'Europe, et donc cette Europe qui avait confié aux États-Unis sa sécurité, à l'exception de la France, qui est toujours en rôle, position ambivalente là-dessus, mais cette Europe, donc, est aujourd'hui à nu, impuissante. Elle est aujourd'hui avec un retard énorme à combler pour assurer sa propre défense, pour autant qu'une défense commune soit possible. Mmh. Et l'Occident, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Mmh. C'est un mot valise hein, qui n'a jamais voulu dire grand-chose. On y met un peu ce qu'on a envie. Parce que, par exemple, si vous dites l'Occident, c'est la démocratie, c'est les élections, c'est le respect de l'état de droit, la loi, etc. Mais quand je vous dis Occident, vous ne penserez jamais aux pays d'Amérique latine. Mmh. Vous penserez, en fait, aux cartels anglo-saxons et européens, germano-anglo-saxons. Mmh. Donc, aujourd'hui, l'Occident, ça n'a qu'un sens concret, mmh. c'est l'OTAN. C'est l'Alliance Atlantique. Mais cette alliance, on voit aussi que si les États-Unis s'en retirent un tant soit peu, mmh. elle s'effondre.
Alors justement, oui, effectivement, l'Amérique latine qui ne fait pas partie de l'Occident, est-ce que, alors c'est une question, mais on ne va peut-être pas y répondre trop longuement, mais ne serait-ce que poser la question, c'est peut-être y répondre aussi, est-ce que c'est justement pas par opposition avec les États-Unis, la puissance du Nord, qui fait qu'aujourd'hui, on ne l'a pas considéré. Alors l'OTAN...
Certainement, mais avec la doctrine Monroe, les États-Unis se sont arrogés le droit aussi de régenter l'Amérique latine. Mmh. Mais nous, on n'y pense pas parce que c'est trop loin. Et puis c'est très mêlé aussi culturellement. Vous voyez, vous allez au Mexique, au Brésil, voilà. Mais en revanche, il y a des pays qui sont très loin. L'Australie ben vous, et la Nouvelle-Zélande, mmh. vous la mettriez dans les puissances occidentales. Mmh. Et de fait, elle représente la pointe avancée de l'Occident dans mmh. le Pacifique. Mmh.
Vous avez parlé de l'OTAN. On a évoqué les néo-empires qui ressurgissent. On a évoqué la Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine et l'Inde. La Turquie, elle est... entre deux eaux, d'une certaine manière, Jean-François Colosimo. C'est le plus atypique des cinq évoqués, membre de l'OTAN, on peut le rappeler, et puis faisant partie de ce club des cinq.
Absolument. La Turquie a un rôle totalement ambivalent. Bon, l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, c'était toujours déjà un Est-Ouest, n'est-ce pas ? Un Occident-Orient, un Orient-Occident. Mais là, Erdogan, d'un côté, appartient à l'OTAN, et de l'autre, se fournit en armement chez les Russes. Mmh. Ce qui veut dire qu'en fait, ils se dotent d'armes que l'OTAN ne peut pas maîtriser. Dans le même temps, il affirme ses volontés impériales, que ce soit dans la mer Égée, où je vous rappelle que la France a dépêché des navires pour mmh. empêcher Erdogan d'agir, mmh. sur Chypre, mais aussi en Syrie, où il veut récupérer des territoires anciennement ottomans, en Libye, évidemment dans les Balkans, où là, c'est une pression religieuse et économique, n'est-ce pas ? En Bosnie, au Kosovo, en Albanie, mmh. et puis en Afrique. Mmh. Mais en Afrique, on retrouve les Russes et les Chinois aussi, qui, je dirais, travaillent main dans la main pour effacer la France.
Et les États-Unis aussi, mais la France surtout.
Donc vous avez oui. raison, la Turquie, c'est l'élément un peu le plus ambigu. Le rôle de la Turquie en Ukraine passe par le fait qu'en fait, on ne le sait pas, on ne l'a pas noté, mais la Turquie, en fait, réclame la possession de la Crimée. Mmh. N'est-ce pas ? En tout cas, au moins symboliquement, en raison de la présence des Tatars. Mmh. Donc la Turquie joue un rôle extrêmement ambigu, de la même manière que Erdogan est un peu le chef de file des frères musulmans à travers le monde. Il exerce aussi sur le Qatar, en tout cas un lien, vous voyez, pas simplement sur le Qatar. On a vu aussi le rôle qu'il a pu jouer à un moment en Égypte, en appuyant Morsi, alors que sont plutôt les Saoudiens et les Émiratis qui ont combattu Morsi parce qu'ils sont plutôt salafistes. Mmh. Bon, d'abord, on voit d'abord que le monde est terriblement complexe, mais ce qu'on voit surtout, c'est que, en fait, la Turquie joue sur tous les côtés, se veut la meilleure amie de Poutine. Mmh. Ils ne sont pas engagés sur l'embargo. Mmh.
Alors, il y a encore plein de choses que je voudrais évoquer avec vous, Jean-François Colosimo. C'est, alors, on l'a dit hein, dans la première partie de l'émission, les cinq empires que nous évoquons, qui sont aujourd'hui alliés, est-ce qu'ils le resteront toujours ? Mais avant cela, je voudrais qu'on reste quelques instants sur l'Europe. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, sa force et sa faiblesse ? Vous dites que le plus à redouter pour l'Europe, c'est la peur.
Oui, bien sûr. Parce que la véritable question qui se pose, vous voyez, c'est que... Après 1492, la colonisation, l'européanisation du monde, à cette volonté qu'avait par exemple Jules Ferry, mais que combattait Georges Clemenceau, d'apporter la civilisation avec un grand C aux autres, cette civilisation avec un grand C, elle s'est suicidée dans les tranchées de Verdun en 1914-1918, dans l'horreur, la boucherie, l'inhumanité, enfin la barbarie. Et depuis, en fait, elle a en quelque sorte, je dirais, perdu son aura, sa puissance à l'extérieur, mais sa propre conviction sur elle-même. Dans ce sens-là, la Deuxième Guerre mondiale doit être comprise aussi comme quelque chose qui suit la première. Mmh. En fait, en 1918, c'est assez simple. La révolution bolchevique a déjà eu lieu,
1917.
En Russie. Et en 1918, il y a 2 millions de soldats américains sur le sol français, plus que de soldats français qui ont été acheminés en une année. Déjà se profile ce monde bipolaire qu'on va avoir après 1945.
Et c'est là Washington... qu'a commencé l'américanisation de l'Europe, Jean-François Colissimo.
C'est la défaite. Wilson crée la Société des Nations. Les successeurs de Wilson n'auront pas y adhérer. Mais ça y est, l'Amérique organise l'avant-mondialisation. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, après, vous avez des dates clés comme Suez, où les Français et les Britanniques et les Israéliens interviennent pour empêcher la nationalisation du canal de Suez par Nasser, et c'est les États-Unis qui sifflent la fin de partie. À partir de 1945, c'est vraiment le face-à-face Washington-Moscou, avec une guerre perpétuelle, mais qui est déplacée, déléguée sur des théâtres d'opérations annexes, qui peuvent être le Vietnam, comme l'Angola. Ils sont annexes pour Washington et pour Moscou. Ils ne sont pas annexes en eux-mêmes, bien sûr.
Alors, les puissances que l'on évoquait, j'y reviens, Russie, Turquie...
Donc, nous sommes démoralisés. Au nom de quoi des jeunes Européens iraient mourir? C'est ça, la question. Il y a encore des jeunes Américains du Midwest qui sont convaincus, en partant à l'autre bout du monde, qu'ils vont apporter la paix, la liberté, la prospérité. Ils se trompent, certes. C'est la question que posait Ben Laden, n'est-ce pas? C'est-à-dire, là où il n'y a pas de sacrifice pour des valeurs transcendantes, on est vraiment réduit quasiment à l'impuissance. Vous voyez, c'est un peu la réflexe lorsque le président de la République a parlé d'envoi de troupes. Beaucoup Françaises et de Français un peu âgés ont cru que leurs petits-enfants allaient être envoyés là-bas. Bon, c'était une erreur, parce que ce n'était pas du tout ce qu'ils disaient. Ouais. Mais au fond, mourir pour l'Ukraine... Mais le problème, quand on dit mourir pour l'Ukraine... que ça paraisse loin et artificiel, certes, mais quand on se bat pour l'Ukraine, on ne se bat pas pour l'Ukraine, on se bat aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire, que voulons-nous être demain dans un monde où, on le voit, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, au sens de où on a vécu la première et la deuxième. Nous sommes rentrés dans la première guerre mondialisée, perpétuelle, des foyers de guerre, des guerres qui commencent, ne finissent jamais, ou s'arrêtent, on ne sait pas comment, on peut repartir. Dans ce contexte-là, que faisons-nous de nos idéaux? Et puis de notre solidarité avec celles et ceux qui souffrent ailleurs et qui se battent, eux, courageusement pour dire non à la tyrannie.
Et vous pensez que là, c'est précisément avec cette guerre d'Ukraine, cette invasion de l'Ukraine par la Russie, que c'est là où il est important que les Européens, que la France sorte du bois et se dresse contre cela. C'est un moment...
Et la France le fait. La France le fait. Nous avons beaucoup de difficultés, non pas tellement avec l'Allemagne, mais qu'avec M. Scholz, qui représente une espèce de cerveau dinosaurien de non-engagement. Vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'après 1945, l'Allemagne, dans sa volonté de s'amender, a confié sa sécurité aux États-Unis. Voilà. Maintenant, les États-Unis ont été momentanément de retour en Europe. Ils sont momentanément de retour au Proche-Orient en raison... de l'affrontement Israël-Gaza, ou Israël-Hamas plutôt, pour être exact. Mais en fait, on sait très bien que pour eux, ça va se jouer dans le Pacifique. D'ailleurs, leur principal rôle lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas l'Atlantique, c'était déjà le Pacifique. C'est là où ils sont le plus investis, face à la Chine.
Mais j'en reviens à la guerre d'Ukraine, Jean-François Colissimo. Alors oui, nos dirigeants sont convaincus de la nécessité de s'opposer. L'opinion publique française ne l'est pas tant que cela, à ma grande surprise d'ailleurs.
Oui et non, je dirais que d'abord il faut du travail d'éducation. Il y a un côté, je dirais aussi, d'absence de souci du lointain, en raison aussi de toutes les difficultés intérieures, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsqu'on veut s'affirmer comme une puissance, il faut se donner les moyens aussi de cette puissance déjà économiquement, du point de vue aussi du moral des populations, enfin, etc. etc.
Vous pensez que la France est en décalage par rapport à elle-même sur ce plan, Jean-François Colissimo?
Non, nous restons une puissance. Nous restons une véritable puissance, mais encore faut-il qu'il y ait un peuple qui consente à ce que nous soyons cette puissance. Nous sommes une puissance. Nous sommes la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Et la dissuasion, c'est la carte maîtresse de la souveraineté et de l'indépendance.
Elle a ses limites aussi.
Mais elle a désormais ses limites, mais malgré tout, mieux vaut l'avoir que pas l'avoir, vous serez d'accord avec moi. Bon. Ensuite, nous avons une armée complète. Elle n'est pas assez importante, elle n'est pas assez nombreuse, c'est tout ce que vous voudrez, mais en attendant, on a terre, mer, air, et ça, on est les seuls aussi. Il y a de très bons régiments partout ailleurs, il n'y a que la Pologne qui aujourd'hui affirme une volonté aussi d'avoir une armée complète. Cette armée, la nôtre, en plus, elle a l'expérience du feu. Un peu partout dans le monde, dans des missions de paix ou dans des missions nationales à l'international, n'est-ce pas ? Et ça, c'est très important aussi, parce qu'un soldat qui s'est entraîné et un soldat qui a combattu, c'est pas tout à fait le même soldat. Et puis enfin, nous avons aussi, malgré tout, encore une fois, l'Europe a été le lieu de pages très sombres, mais aussi de pages très lumineuses. La France n'a pas été parfaite, elle a besoin aussi de réviser son passé. Mais dans ce passé, nous avons aussi énormément de savants qui sont allés vers les autres cultures d'une manière généreuse, pas pour capter ces cultures, pas pour les instrumentaliser, mais pour autant que possible les vivre avec ceux qui étaient les détenteurs de cette culture. Et je pense que ça aussi, c'est très important parce que le combat, il est culturel aujourd'hui face au désordre, au chaos mondial. Le combat est culturel, c'est pas une bonne connaissance aussi des autres, de l'histoire, des religions, des arts, etc., qu'on peut prévenir, en fait, je dirais, cette pente vertigineuse que nous semblons emprunter vers le chaos total.
Ça ne laisse pas beaucoup de place à l'optimisme, Jean-François Colosimo. Justement, quel avenir voyez-vous pour ces néo-empires ? On l'a dit, ils sont aujourd'hui alliés. Est-ce qu'on peut imaginer précisément un moment où les choses vont tourner, évoluer et ils vont se retourner les uns contre les autres parce que leurs intérêts ne seront plus partagés entre ces cinq ? Et que va-t-il se passer entre-temps ?
Eh bien, c'est l'entre-temps qui est délicat. Ces empires, terminalement, s'affronteront d'abord parce que lorsqu'ils ont existé entre le 15e et le 19e siècle, ils n'ont pas cessé de cumuler les guerres entre eux. Vous voyez, il y a eu une douzaine de guerres russo-ottomanes, russo-turques, si vous préférez. Il y a eu des guerres incessantes entre l'Empire ottoman et l'Empire perse. L'Empire perse a voulu conquérir l'Inde. Quant à la Chine, elle était assez isolée, mais elle a quand même subi les Russes au XIXe siècle, etc. Je dirais qu'il y a un héritage de conflits et il y a des intérêts totalement divergents, parce qu'ils veulent la place du numéro un, n'est-ce pas ? Et il n'y a qu'une place du numéro un sur le podium. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tous exactement les mêmes capacités à y prétendre.
Une grande inégalité entre les uns et les autres.
Bien sûr.
À la Chine par rapport au reste.
Bien sûr. Mais la Chine est très fragile, contrairement à ce qu'on croit. Et de ce point de vue-là, parier sur l'Inde, comme le fait aujourd'hui la France, ce n'est pas complètement idiot, dans le sens où l'Inde a moins de visées expansionnistes et impérialistes que la Chine. Donc, notre problème, c'est de lutter d'ores et déjà pour, je dirais, instiller le doute, pour être en quelque sorte dans une version renouvelée d'une stratégie multipolaire. Il ne faut pas s'arrêter de parler avec eux, il ne faut pas, etc. Mais il faut, ça a toujours été un peu le destin de la France, un royaume qui a joué les empires les uns contre les autres, au Moyen-Âge, au temps moderne. Donc, il nous faut aussi choisir des préférences. Avec qui on préfère être et avec qui on ne veut pas être du tout. Voyez, alors c'est une chose quand Poutine fait la guerre au cœur de l'Europe, c'est autre chose évidemment quand l'Inde est très loin et connaît un bond tout à fait spectaculaire. Et puis, je dirais qu'il faut se fonder aussi sur une diplomatie, encore une fois, des peuples, une diplomatie des cultures. Je veux dire, ces tyrans, en fait, sont pires que ceux qui nous accusent d'être. Ils sont plus autocratique, plus impérialiste, plus colonisateur, plus colonialiste et, à un sens, plus occidentaliste, comme ils conçoivent l'Occident, que nous n'avons jamais été.
Votre espérance, Jean-François Colosimo, vous êtes optimiste ?
Mon espérance, c'est que partout où les gens vivent l'oppression, il y a des gens très courageux qui se lèvent et qui nous montrent l'exemple du courage que nous n'osons plus avoir ou que nous ne savons plus avoir, mais que nous avons eu, nous aussi, par le passé. Voilà, je crois qu'il y a une internation, puis avoir une internationale des résistances au mal.
Merci Jean-François Colosimo. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Occident, ennemi mondial numéro 1, Russie, Turquie, Iran, Inde, Chine, pourquoi tant de haine, paru aux éditions Albin Michel. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.